Bonjour, bienvenue sur Cunéo, le podcast qui donne la parole aux architectes. Je m'appelle Chérine Gasnier, la créatrice de ce podcast. Je suis architecte, diplômée de l'école d'architecture de Grenoble, enseignante depuis 2010. Je suis aussi maman de 3 enfants. Ici, je vous propose des entretiens sur le ton de la conversation avec des architectes pour aborder les questions de pratique de l'architecture. L'idée est de vous faire rentrer dans les agences et de poser des questions. De vous ouvrir un monde de possibles, de vous inspirer. Peut-être entendrez-vous des choses vous permettant de vous identifier. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Dites-moi ce qui vous plaît, ce qui peut être amélioré. Et surtout, dites-moi qui vous aimeriez entendre à ce micro. Ce 5e épisode est complètement fou. Pour moi, c'était un grand bonheur de conduire cet entretien. Patrick Bouchain, c'est le fondateur de l'agence Construire, l'architecte du lieu unique, de la Halo Machine, du magasin et tant d'autres projets. Patrick, c'est surtout une figure de la construction de la tangente. Chaque projet est comme un casse-tête qu'il résout avec toujours ingéniosité et innovation. Dans le podcast, comme dans l'architecture, ses réponses sont rarement celles qu'on attend. Le but de ce podcast, vous le savez, c'est de vous inspirer. Je pense que le pari est réussi ici. Après avoir écouté cet épisode, tout semble possible. Je voulais vous remercier. Ce podcast existe parce que vous l'écoutez, et cette occasion de poser mes questions à Patrick Bouchain n'aurait pas existé sans Cunéo. Alors merci. Je vous laisse avec Patrick. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Patrick, merci de prendre ce temps pour répondre à nos questions.
Avec plaisir.
Pour commencer, je voudrais que tu te présentes, que tu nous dises ton nom, ton âge, le lieu de tes études et le nom de la structure dans laquelle tu travailles ou tu travaillais.
Alors, donc, mon nom, c'est Patrick Bouchain et j'ai 77 ans et je n'ai plus de lieu où je travaille, mais je n'ai jamais vraiment eu de lieu. J'ai toujours eu des bureaux qui étaient rattachés aux opérations. Donc, je considérais qu'il fallait travailler là où l'objet se réalisait. Donc, j'ai toujours eu une architecture nomade, et j'ai donc toujours eu une agence nomade. Voilà, et donc aujourd'hui, comme je suis à la retraite depuis longtemps, j'ai décidé d'utiliser ce temps, et qui est un temps qui m'est payé par la République et par vous-même, puisque vous cotisez, et moi, le système me permet de toucher de l'argent en ne travaillant pas, de donner ce temps à une sorte de formation, ou peut-être... Je finirai ma vie comme un transmetteur ou un passeur, n'ayant pas été moi-même à l'école. Donc, c'est pour ça que je réponds en même temps à ta question, quelle école j'ai faite?
D'accord.
L'école de la vie.
L'école de la vie. Moi, j'avais cru que vous aviez fait les Beaux-Arts. Ce n'est pas le cas?
Non, pas du tout.
D'accord.
Non, j'ai enseigné très tôt, parce que comme je n'ai pas trouvé l'école que je voulais avoir. Donc, j'ai en effet testé des écoles, on pourrait dire. Et j'ai donc, en testant ces écoles, j'ai gardé de bonnes relations et je suis devenu professeur trop tôt. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'est pas allé à l'école a un complexe de ne pas y être allé et en même temps, il veut être professeur alors qu'il ne veut pas aller à l'école. Vous voyez, c'est un truc qui se mord la queue. Donc, j'ai enseigné très tôt. Dès l'âge de 22 ans, j'ai été professeur à l'école Camondo. Après, j'ai été professeur à l'école de création industrielle à Paris. Et après, j'ai enseigné dans des écoles d'architecture ponctuellement. Et j'ai quand même gardé une envie d'enseigner toute ma vie. Comme enseigner, c'est apprendre. Ce n'est pas au sens d'enseigner, de dispenser un savoir. C'est d'enseigner au sens d'être en relation avec des gens qui se posent les mêmes questions. Et peut-être qu'en étant ensemble, en se posant les mêmes questions, on peut être professeur une heure et l'heure d'après être élève. Voilà, le savoir est mobile. Donc, j'ai toujours été à l'école.
Comment est-ce que tu arrives à l'architecture? Qu'est-ce que tu recherches du coup dans ces écoles que tu survoles et comment est-ce que tu arrives à l'architecture?
Alors, parce que enfin, je suis arrivé à une architecture qui n'est pas peut-être une architecture comme on l'entendrait. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était, on pourrait dire, tout ce qui touchait à l'environnement, tout ce qui touchait au cadre de vie. À l'époque, ça s'appelait le cadre de vie. Et après, on a appelé ça l'environnement. Puis maintenant, l'environnement a été attaché après à la nature. Et le vivant a été, comme si le vivant était maintenant rattaché au monde végétal et aux animaux. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était le fait que pour vivre ensemble, il faut mettre en place des dispositifs. On ne peut pas vivre ensemble comme ça, tout nu et au milieu de rien. Donc il faut construire des choses pour pouvoir vivre ensemble. Donc très tôt, mais sûrement orienté par mon père, qui était un grand génie, disons, de la récupération, de la construction et autres, j'ai été sensible à ce qui est nécessaire pour être ensemble. Donc un toit, c'est nécessaire, peut-être qu'un siège, c'est nécessaire, peut-être qu'un robinet, c'est nécessaire. Et donc, lentement, je suis rentré, on pourrait dire, par l'architecture, vers l'architecture, en commençant peut-être par l'architecture intérieure. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus proche de nous? Les meubles, les accessoires, la cuisine. Et ensuite, comme passer à l'architecture, c'était pour ainsi dire, ça m'était interdit, puisque on ne peut pas l'être sans être diplômé ou porter le titre. J'ai donc très vite pris la tangente en disant, je vais faire tout ce qui est provisoire, puisque les architectes ne s'intéressent pas au provisoire. Les architectes ne s'intéressent pas de mon temps à la réparation. Donc, j'ai décidé de faire tout ce qui était à réparer et tout ce qui était provisoire, préparant l'architecture, comme si c'était un stade préparatoire à l'architecture. Et lentement, j'ai fait de l'architecture, puisque l'architecture provisoire, quel est le temps qui détermine que c'est provisoire ou pas? Le provisoire m'a réglé d'énormes problèmes. Parce que comme j'avais peu d'argent, le provisoire, on peut accepter que le provisoire ne soit pas fini, que le provisoire ne soit pas réglementaire. Donc, j'ai excellé dans le provisoire. Et de fait, j'ai commencé à rencontrer ce mouvement qui faisait qu'on réoccupait des lieux de manière provisoire ou définitive, ou tout au moins, on occupait avec très peu de moyens. Et donc, dès les années 70, j'ai été de m'occuper des lieux que des artistes ou des gens modestes utilisaient, qui étaient des lieux abandonnés, principalement des sites industriels. Et donc, en aménageant ou en réparant ces sites, j'ai donc permis de rendre reversibles des lieux qui étaient faits pour le travail, d'en faire peut-être des lieux pour un autre travail, travailler pour l'industrie ou travailler pour la musique, les arts plastiques ou le théâtre. C'était pas courant dans les usines. Et après, j'ai fait plutôt du logement pour des compagnies de théâtre ou pour des compagnies de cirque. Donc, j'ai quand même fait du logement, j'ai fait quand même de l'architecture au sens général du terme. Et donc, je suis arrivé presque qu'à 60 ans à faire du logement au sens où les architectes l'entendent. Et j'ai voulu en effet m'attaquer au logement social à la fin de ma vie, alors que normalement, les gens qui avaient mon âge ont commencé à faire de l'architecture en construisant du logement social. Mais comme 40 ans après, on démolissait ce logement social qui avait été construit, c'est à ce moment-là que je me suis posé la question, et si je m'occupais d'empêcher sa démolition? Voilà comment je suis arrivé à l'architecture, mais je n'y suis pas vraiment, ou j'y suis complètement. Enfin, c'est comme je ne suis pas vraiment formé, et je suis totalement formé parce que j'ai tout le temps fait attention à m'enrichir, et pour l'architecture, c'est pareil. Est-ce qu'il y a une seule catégorie d'architecture? Est-ce que l'architecture n'est constituée que par le monument, l'équipement et le logement? Je ne crois pas. Voilà, donc je suis à part et je rencontre plein de gens qui sont à part comme moi. Quand j'étais jeune, j'étais seul, très peu, on était très peu. Aujourd'hui, je rencontrerai plutôt un mouvement favorable à cette démarche.
Oui. Oui. Et du coup, cette manière de penser, de prendre la tangente un peu, de trouver le passage entre les interdictions et les injonctions, c'est un peu ce qui caractérise votre travail. En tout cas, c'est ce que moi j'apprécie dans ce que je vois que vous avez fait. Est-ce que vous avez une idée de d'où ça vous vient, cette capacité comme ça à vous frayer un chemin?
Je pense que c'est ma personnalité, peut-être. J'aimais pas trop faire comme les autres. Et après, j'ai en effet un père, comme je disais tout à l'heure, qui était curieux, plutôt qu'opposé à, il était curieux d'avoir un de ses enfants qui était non pas rebelle au sens de tout rejeter, mais qui était peut-être curieux au point de rendre plus facile les choses. C'est-à-dire plutôt que d'affronter les sujets ou les problèmes et de les surmonter par un effort surhumain, peut-être de les aborder et de les affronter avec un retournement. C'est-à-dire qu'un peu, voilà, c'est une façon de retourner la situation. C'est pas de l'évacuer, c'est pas de passer à côté pour l'évacuer, parce que la situation vous revient dans la figure, mais c'est plutôt pour retourner la situation pour qu'elle soit mieux comprise par d'autres et qu'éventuellement vous puissiez réunir des forces autour de vous. Alors, la réglementation, elle est le produit d'une société organisée. On peut dire une société qui est organisée, édicte des lois, et c'est une société démocratique, une société qui a des lois communes à tous. Mais en effet, si on ne donne pas la loi comme comme une règle du jeu, mais qu'on donne la loi comme une application coercitive ou stricte, ce n'est pas une bonne loi, quoi. En ce moment, on dit, ce n'est pas une bonne loi. Et on ne veut pas connaître le droit. Et moi, comme j'avais compris que dans le droit, il y avait des contradictions, il y avait même des interprétations possibles, j'en ai fait une sorte de jeu, qui est de dire, qu'est-ce qu'il y avait d'essentiel dans la loi, le règlement, pourquoi on l'a édicté, pourquoi on a légiféré pour ça et pourquoi on a édicté tel règlement. Il y avait sûrement une bonne raison. Un règlement incendie est un bon règlement, parce que c'est pour empêcher que des gens meurent dans un incendie. Mais est-ce que cette lecture au premier degré, rédigée par un technicien, mise à l'épreuve de la réalité, ne pourrait pas s'enrichir de la vie? C'est-à-dire que la loi, il faut qu'elle soit nourrie par la vie, ce qu'on appelle la jurisprudence. Donc très tôt, j'ai eu envie de jouer avec ça. Voilà, c'était un exercice intellectuel plus qu'un exercice de ruserie. Ce n'était pas pour ruser, ce n'était pas pour tromper. C'était au contraire pour éclairer, éclaircir, rendre joyeux d'ailleurs l'utilisation de la règle générale et éventuellement faire rentrer la joie ensuite dans le règlement. Il y a dans l'acte et dans le règlement. Donc au début, je faisais que dans l'acte, ce qu'on me disait, mais je peux aussi te regarder. Et après, j'ai pensé que je pouvais créer des jurisprudences visibles qui pouvaient servir à d'autres. Donc c'est le plaisir peut-être de la liberté. J'ai été formé par mon père qui me défendait comme principe premier la liberté.
Et ce qui est beau dans ce que tu dis, c'est et ce qu'on comprend, c'est que cette joie oui, ce jeu-là de jouer avec la règle, eh ben, il devient construction à un moment donné. Il est capable de prendre corps, alors avec plus ou moins de pérennité, mais et ça vous tu tu le sais tout de suite ou c'est quelque chose que tu découvres en le faisant?
Ben déjà, j'aimais pas les jeux de société. Mes frères et sœurs aimaient beaucoup les jeux de société. Mon père détestait les jeux de société, donc j'étais fidèle. Je l'aimais beaucoup, donc j'étais fidèle au fait qu'il n'aimait pas les jeux de société. Et en fin de compte, j'aimais pas perdre. Mais comme je n'aimais pas perdre, j'avais peur de perdre. Donc je ne voulais pas être en compétition, parce qu'en compétition, je n'étais pas sûr de gagner. Et je me suis dit un jour, en fin de compte, et pour éviter de perdre en étant surpris, je vais donc perdre tout de suite. Donc dès que je jouais en société, je faisais tout pour perdre le premier, pour être en fin de compte battu tout de suite, au point que ceux qui jouaient avec moi étaient déçus de me perdre. Parce qu'on aime bien faire du mal à l'autre, mais on gagne lentement. Si tu fais exprès de perdre, tu joues exprès le contraire de ce qu'il faut pour gagner, tu déstabilises ton adversaire qui aimerait te garder pour t'abattre lentement. Et donc, te perdre, ce n'est pas possible. Donc, j'ai compris très tôt que dans les règles du jeu, ou dans les règles des jeux, il y avait en effet des règles pour être en compétition. Donc, j'ai commencé à me dire, mais pourquoi il n'y a pas des jeux de coopération? Pourquoi il y a pas... Alors, il y avait des jeux de 2 à 2. On peut s'associer à deux contre 2 autres. Donc, je préférais ces jeux-là. Et voilà, à l'époque, comme j'étais pas violent, je préférais jouer avec des filles plutôt que de jouer avec des garçons. Et donc, j'aimais beaucoup avoir une alliance avec quelqu'un qui était en général plus vieille que moi et éventuellement qui était plus douce. Je sais pas, il y avait quelque chose, enfin, qui était très douce. Et donc, moi, j'aimais la douceur. Donc, j'aimais jouer avec quelqu'un qui m'aidait à gagner éventuellement ou tout seul, je me faisais perdre. Et j'ai commencé à lire les règlements les modes d'emploi. Je me suis intéressé aux modes d'emploi. Les modes d'emploi du ustensile de cuisine, comme j'aimais dessiner éventuellement des objets. Mais comment on écrit ce que l'on voit. Quand tu vois une chaise, on n'a pas besoin de te dire, il faut s'asseoir dessus. Donc, quand on voit un instrument de cuisine, si, ou un couteau, on ne dit pas comment on s'en sert. C'est culturel. Alors qu'un presse-purée, on est obligé de te dire plein de choses. C'est là que c'est un objet nul. S'il faut faire un mode d'emploi pour un presse-purée, il faut mieux avoir une fourchette. Alors du coup, j'ai regardé dans les règles du jeu, qu'est-ce qui faisait qu'il y avait des jeux d'alliance et des jeux de compétition. Et comme je n'aimais pas la compétition, ni celle de l'école, ni du diplôme et autres, j'ai commencé à dire, tiens, et si on jouait à retourner la règle du jeu? Hein, donc, pour reprendre ta formule. Donc, cette règle du jeu, est-ce qu'elle pourrait entraîner en jouant l'alliance? Tu démarres, tu veux tuer ton adversaire et tu t'aperçois en fin de compte que jouer avec lui, c'est plus agréable s'il est mis en valeur. Si éventuellement, en jouant avec lui, tu le rends épanoui. Plutôt que de le rendre agressif, tu le rends épanoui. Et pour le rendre épanoui, il ne faut pas non plus complètement perdre, parce que là, il faut jouer. Il faut créer une sorte d'équilibre entre l'un et l'autre. Et éventuellement, perdre ou gagner, ça n'a aucune importance. Il y a le plaisir de jouer. Donc, j'ai commencé par le jeu, par le rejet du jeu, et par la règle du jeu, et par l'alliance dans le jeu. Donc, j'ai beaucoup joué à des jeux à la con, quand même des jeux de cartes, quoi, pour voir comment mon adversaire était. Donc, c'est comme ça que j'ai eu envie d'enseigner, en me disant, mais peut-être que je ne suis pas allé à l'école parce que je ne voulais pas être en compétition, mais peut-être qu'il pourrait y avoir une école non compétitive, une école d'alliance, et peut-être que à ce moment-là, j'aurais envie d'enseigner parce que je ne serais pas un sachant qui dispense un savoir, mais peut-être un animateur d'une situation qui entraînerait les autres à apprendre. Donc j'ai enseigné, et c'était plus facile d'enseigner dans des écoles d'art ou dans des écoles moins professionnelles que dans des écoles professionnelles, où on dit tout de suite, il y a des règles à apprendre pour faire la profession. C'est pour ça que Camondo, l'école des Beaux-Arts de Bourges, et après l'école de création industrielle, c'était de mettre en place un enseignement sur le projet. Alors maintenant, c'est une banalité de dire ça, mais moi, c'était vraiment sur le projet. Alors, lentement, comme moi, être sur le projet, c'est d'avoir un cas concret. Bon, je donnais aux étudiants un sujet qui était non pas un sujet écrit ou autre, mais qui était un sujet d'actualité. On pouvait donc regarder un journal télévisé et au bout d'une demi-heure de journal télévisé, je donnais comme exercice, y avait-il un sujet d'actualité qui entraînerait une modification environnementale? Par exemple, je sais pas, le code de la route ou je sais pas, ou la pollution. Et après, j'ai commencé à dire, on va aller chercher des sujets sur le territoire. On faisait des grandes marches jusqu'à temps qu'on rencontre un sujet et qui permettrait de nous réunir pour passer à l'acte et de se poser des questions. Alors, de fait, tu rencontres de l'architecture. Est-ce que tu rencontres un environnement d'espace public? Pour moi, c'est de l'architecture. Ou un environnement construit où il n'y a pas des objets identifiés, mais il y a un entre-deux d'objets construits qui relèvent de l'architecture. Donc, j'ai plutôt travaillé sur l'entre-deux, sur ce qui relie les objets. Et bien sûr, naturellement, avec mes étudiants, je faisais des actes construits. Donc, du coup, j'ai construit. Alors, je suis peut-être venu à l'architecture par la construction. D'abord par la question, par la construction, et après, elle a pris forme par la réponse à la question. Et donc, tout le monde disait au début, mais ce n'est pas de l'architecture parce que c'est jamais la même chose. Et c'est pas, voilà, un auteur en architecture, on doit le reconnaître. Et moi, je disais tout le temps, non, on doit d'abord voir comment il fait. On le reconnaît par comment il fait. Ce qu'il produit est le hasard, mais comment il le fait, ce n'est pas du hasard. Donc, j'ai plutôt été un architecte de la méthode. Mais en même temps, je ne voulais pas une méthode répétitive. Donc, je faisais exprès aussi de changer de méthode. Voilà, c'est ma vie.
Très bien. Tu enseignes en premier, et il y a un et donc en enseignant, tu ou vous, avec les étudiants, commencez à construire. Et il y a un moment donné où la question de construire quelque chose d'un peu plus formel, enfin quelque chose qui va finalement finir dans les bouquins aujourd'hui, se pose. Et comment est-ce qu'elle se fait, cette transition-là?
C'est la vie. Est-ce que tu peux faire un jour pour quelqu'un, je ne sais pas, même quand tu invites des amis chez toi, tu changes la table de place. Et puis, parce qu'il y a plus de monde. Et parce qu'en fin de compte, être à table, c'est plus important que d'être assis sur un fauteuil à côté, où tu n'as pas 12 fauteuils pour asseoir les gens. Mais par contre, tu as une table autour de laquelle tu peux mettre un banc, un fauteuil et 3 chaises. Donc, un jour, tu vas faire un exercice de construction spatiale pour permettre à un groupe social de venir manger. Et il va se passer un truc. Le lendemain, est-ce que tu vas casser tout et revenir à un fauteuil, 4 chaises et une table? Ou est-ce que tu vas dire, en fait, ce n'est pas idiot, quoi. Ce qu'on a produit hier ensemble, je vais le garder un certain temps. Je vais garder ça, puis je vais même faire mon bureau. Comme ça, je vais travailler sur la table et tout, puis je vais arrêter d'avoir un bureau, une table de salle à manger, une table basse et des fauteuils. Donc, tu vas rendre pérenne pour un temps une expérience que tu as faite. Alors, moi, j'ai fait des choses pérennes que je n'avais jamais considérées comme pérennes. Je les ai faites parce qu'on m'avait demandé de les faire. Et puis, je pensais que la personne pour qui je l'avais fait, elle pouvait en faire ce qu'elle voulait. Le lendemain, elle pouvait tout changer, tout jeter et tout. Et moi, je voulais faire une expérience avec elle pour lui dire, on peut faire comme ça. Et si la personne le garde, ça devient pérenne. Et si la personne, en le gardant, au bout d'un certain temps, vivant avec ça, elle franchit une nouvelle étape de demander à quelqu'un d'autre de changer ou à elle-même d'oser changer parce qu'elle a vu que c'était ça, elle devient autoconstructrice. C'est-à-dire qu'elle devient, sur un objet que tu avais fait provisoire, qui est devenu pérenne par son usage, que lui-même après emmène dans l'histoire en le changeant, tu ne sais pas quand c'est pérenne, tu ne sais pas quand c'est une construction, tu ne sais pas si c'est un assemblage ou une construction, tu ne sais pas. Et donc, il faut se mettre dans cette disposition de la vie et on ne peut pas faire quelque chose pour personne, c'est plutôt ça la règle, on ne peut pas faire quelque chose pour personne. C'est un métier, non pas de service, mais c'est un métier d'aide à. Donc, tu ne peux pas construire pour personne. Et tu peux construire pour quelqu'un, d'ailleurs, qui serait une personne, mais qui ne serait peut-être pas obligatoirement commanditaire, ou qui ne serait pas obligatoirement l'usager, mais une personne qui représente. Une personne qui est pauvre, ou qui est riche, ou qui est étrangère, ou qui est autochtone, peu importe. Mais elle peut représenter. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Qui peut parler au nom d'un autre, et qui peut transmettre les choses que moi j'ai faites. Je ne me suis jamais posé aucune autre question. Et d'ailleurs, des fois, on a démoli des choses que je croyais, au bout d'un certain temps, devenir pérennes. Tu vois, des bâtiments, je me dis, bon, bah, celui-là, il fera partie sûrement des bâtiments pérennes. Puis, crac, il est démoli. Et il y a des gens qui t'appellent, qui disent, mais attends, tu t'es au courant, il faut créer un comité de défense et tout. Je dis, attends, moi, ça m'intéresse, je suis déjà ailleurs. Je l'ai fait, les gens ont eu du plaisir dedans, mais aujourd'hui, ils veulent faire autre chose, c'est pas mon problème. Pas du tout. Je veux bien défendre les œuvres des autres, mais défendre mon travail ne m'intéresse pas du tout. Ça m'intéresse pendant que je le fais. Là, je suis très exigeant pour la liberté, pour le faire. Dès qu'il est fait, d'ailleurs, en général, quand il est fait, je ne l'aime plus. C'est un peu ça. Parce que quand tu le donnes, il n'est plus à toi. Tu ne l'aimes plus au sens que tu le possèdes. Je l'aime au sens que je respecte la commande qu'on m'a faite et tout. Mais je ne l'aime plus au sens que je l'ai abandonné. Je l'ai fait et je l'ai abandonné, et en le donnant, parce que dans l'abandon, il y a le don, il n'est plus à moi, donc il ne m'appartient plus.
C'est très beau, encore une fois. On a déjà un peu parlé du travail chez Construire, ou en tout cas de la manière de recruter. Ça m'intéresse que les étudiants ils puissent s'imaginer comment ça se passait, le fonctionnement, ou comment ça se passe d'ailleurs, parce que ça se passe toujours, le fonctionnement dans cette agence, comment est-ce que le travail s'organise, qui fait quoi
Alors, tout d'abord, parce que pour les étudiants qui vont écouter, qui sont concernés par ce qu'on appelle la HMO, et donc après avoir eu son diplôme, il faut faire une HMO, et la règle, c'est de faire son HMO chez un architecte, et plutôt dans un exercice libéral. Donc, comme moi, je pense que ça existe, mais ce n'est pas celui que je voulais avoir comme mode de fonctionnement. Beaucoup d'étudiants qui ont fait leur HMO chez moi n'ont pas eu leur HMO. Parce que quand ils sont passés devant le jury, on a dit, mais voilà, ce que tu as fait, ce n'est pas l'architecture, c'est de la gestion sociale, ou je crois que c'est de l'animation, mais pas l'architecture. Donc, quand je suis sorti de l'école, parce qu'il faut toujours se replacer quand on est vieux, on a été jeune. Alors que quand on est jeune, on n'a pas été vieux. Et donc, on a besoin des fois de savoir ce qu'une vie d'un autre a affronté. Donc, il faut toujours être généreux, dire « Attends, moi j'ai tenté ça, mais bon, tu peux tenter, mais enfin, c'est risqué quand même. » Donc, c'est très important. Alors, du coup, en sortant de l'école, comme tout le monde, à l'époque, on trouvait du travail facilement. Je travaillais dans des grosses agences, parce qu'il y avait, à notre époque aussi, il y avait de très grosses agences. Et j'ai découvert que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Pour ça, je retournais à l'école pour suivre des cours où je travaillais dans un autre métier, mais j'avais l'impression que ce n'était pas le métier que je voulais faire. Et donc, c'est pour ça que je n'ai pas fini mes écoles, que je n'ai pas fait vraiment d'école. Et un jour, j'ai quand même travaillé dans une agence qui a fait faillite et qui avait beaucoup de travail. Et j'ai vu ce que c'était que voilà, ce mode d'organisation comme on pourrait le voir aujourd'hui pour une entreprise, pour un travailleur qui voilà, travaille dans une entreprise. Les produits qu'il fabrique sont de très bonne qualité, la clientèle existe, on pourrait dire, mais le coût de revient fait que l'entreprise va fermer, va fabriquer en Chine par exemple. Appartenir à une entreprise qui fabrique un objet de très grande qualité dans un rapport social magnifique, le chômage, bon, le chômage est terrible. Et quand en plus on est chômeur d'un métier que l'on aimait ou d'un produit de grande qualité qu'on fabrique, c'est encore pire. Quand on est chômeur pour un truc vraiment où c'était une honte le travail qu'on vous donnait, on peut dire bon, c'est qu'on est au chômage, mais enfin, on voit bien qu'il y en a beaucoup qui disent travailler pour payer si peu et faire un travail aussi con, peut-être mieux être chômeur. Mais quand, dans d'autres cas, c'est un drame. Et donc, je me suis dit, mais jamais je n'aurai d'agence. Enfin, je me suis donné une règle, jamais. Et alors, pourquoi on pouvait ne pas avoir d'agence? Parce que j'avais des amis qui étaient dans le théâtre et je voyais bien qu'ils avaient des compagnies et dans la compagnie, il n'y avait qu'une seule chose qui comptait, c'était le projet. Il y avait un projet. Ils ne faisaient pas 20 créations d'un coup. Ils faisaient un projet. Ils réunissaient des gens, ils cherchaient les subventions. Après, ils jouaient et ils faisaient la manche, comme on dit. À l'époque, on faisait la manche. Et donc, ils étaient en relation avec l'économie, en relation avec les savoirs et en relation avec le projet. Je dis, bah, je ferai comme ça. Donc, les agences que j'en ai créées, trois, quatre, Construire étant la dernière, enfin la dernière n'est plus Construire, parce que comme je suis à la retraite, la dernière, elle s'appelle Reconstruire. Et donc, j'ai décidé qu'il n'y aurait pas de structure comme ça, pour une structure, mais qu'il y aurait une structure pour un objet. Et donc, à chaque fois qu'il y avait un projet, on se mettait à quelques-uns, est-ce que tu veux le faire? Est-ce qu'on peut le faire ensemble ou est-ce qu'il faut chercher plus large? On va appeler un tel qui cherche du travail ou qu'une fois on avait utilisé pour ça. Et on va constituer une équipe volontaire, désireuse, et on va créer comme une sorte d'association, mais qui est une association. En France, on a le droit d'association. Et tu peux déposer des statuts d'une association, mais tu as aussi le droit d'association. Tu veux faire une réunion chez toi le soir et tu fais une association, la police ne va pas descendre parce que voilà, je fais une association, même si c'est une association qui critique le gouvernement. C'est libre. Donc, je me suis dit, on va faire des associations sous sein privé, c'est un papier, tu veux faire ça, tu veux faire ça, fais ça. Bon, avec ça, on va gagner temps, on va gagner temps sur ça, qu'est-ce qui veut prendre la responsabilité de ça? Et on faisait une sorte de contrat, ben, c'est plutôt toi, plutôt moi, ça, on va le faire ensemble, après, je ne le ferai plus, tu le feras tout seul et tout. Et donc, j'ai fait, à chaque fois, je ne sais pas, des centaines d'associations, si je fais ma vie, parce que, je sais pas, j'ai dû faire 110 projets, 120 projets, peut-être, en 45 ans, 50 ans. Et donc, j'ai fait 50 ou 100 associations. Et des fois, j'ai la même. Des fois, on me dit, tiens, elle a bien marché, celle-là. Alors, on prend la même pour un autre sujet et on lui retire un élément et on en rajoute un. Parce que peut-être qu'il y en a un qui n'est pas adapté et il en manque un. Donc, c'est beau parce que c'est par osmose. C'est pas à chaque fois à tout reconstruire. C'est une sorte de masse informe qui se forme, qui se déforme, qui se forme, qui se déforme. Donc, Construire aujourd'hui existe toujours, sans moi. Et ceux qui ont travaillé chez Construire ont le droit d'utiliser le mot Construire. Parce que ce mot leur appartient. Ce n'est pas une société, c'est un mot. Donc, il y a des Construire à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille. Des fois, ça me fait rire. Je vois quelqu'un qui signe Construire, je ne me rappelle même plus d'ailleurs que la personne a travaillé 20 ans avec moi. C'est comme si on ne pouvait pas porter le mot, je ne sais pas, architecte, on ne peut pas, justement, pas je fais exprès, mais on peut porter cette dénomination que si on est inscrit à l'ordre.
Oui, c'est drôle ce que vous dites. Et moi, la maquette, c'est un médium qui me fascine. Je trouve qu'il est terriblement efficace, notamment dans l'enseignement, dans la pratique de l'archi, oui aussi, mais dans l'enseignement de l'architecture, je le trouve formidable. Tous les architectes n'ont pas travaillé de la manière dont vous l'avez fait avec des maquettes. Comment est-ce que ça vous est venu?
D'abord parce que, voilà, on peut dire enfant, j'aimais bien faire des maquettes. Soit des maquettes d'objets que j'imaginais, pas des maquettes d'aéromodélisme, hein, mais j'aimais bien faire des choses avec mes mains. Et après, j'aimais bien dessiner. Très tôt, j'ai beaucoup dessiné. Mais j'ai vu que la maquette et le dessin, ce n'était pas pareil. Que la maquette, elle peut être faite après le dessin. Et souvent dans les agences, c'est ça d'ailleurs. On dessine d'abord et après on fait une maquette. Et moi, j'ai vu que la maquette, elle pouvait être avant le dessin. Et que peut-être de manipuler avec la difficulté d'ailleurs de construire en maquette oblige à penser qu'on va devoir le construire. Et je disais toujours, attention, ce qu'on fait en dessin, ce qu'on fait en maquette, n'oubliez jamais qu'il y a quelqu'un un jour qui sera dans le froid avec une truelle ou un tournevis ou une scie et qui va le construire. Donc pensez tout le temps que si vous souffrez à dessiner et à coller deux petits bouts de balsa, le mec il va être à 10 mètres du sol dans un échafaudage et éventuellement avec un plomb mouillé par la pluie, quoi. Alors, je me suis rendu compte qu'on pouvait très facilement associer une incompétence en maquette qu'en dessin. Le dessin, c'est comme la parole ou l'écrit, ça donne une certaine virtuosité. La maquette, on voit bien dans les écoles maternelles et tout, on fait très vite faire des enfants avec une paire de ciseaux, du papier collé ou des maquettes. Et ça permettrait peut-être de faire travailler tout le monde au même niveau. Donc, la première chose que toute personne fait quand il travaille avec moi, c'est une maquette. C'est-à-dire que moi, je n'embauchais pas par curriculum vitae ou par diplôme. Mettez tout de suite la personne à la maquette. Tiens, on fait ça pour demain, un stage, tiens, on fait une maquette et tout. Et on pourrait dire que la maquette, elle était, comme elle était gauche, comme elle était mal faite, on pourrait dire, au sens académique, mais pour moi, elle était bien faite parce que est-ce que la personne avait compris le sens de la maquette, donc ce n'est pas la représentation construite, c'est la représentation de l'idée. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait des maquettes, l'échelle ne comptait pas, des fois, c'était le doigt qui déterminait la taille, des fois, c'est le matériau qu'on avait, des fois, c'est l'envie qu'on avait de prendre tel matériau et tout, et qu'elle était plus égalitaire. Et donc, les maquettes que j'ai données au FRAC ne sont qu'une petite partie des milliers de maquettes qu'on a faites. Parce que très souvent, les maquettes, on les emmenait sur les chantiers et on les offrait. Moi, j'offrais toujours les maquettes. Les gens ont une certaine fascination pour les maquettes. Un ouvrier qui a participé à un chantier, très souvent, on jette les maquettes, par exemple, à la fin. Moi, j'offrais toutes les maquettes. Alors, ils repartaient chez eux ou des enfants venaient et je leur ferais les maquettes. Donc, celles que j'ai données au FRAC, c'est celles que j'avais gardées parce qu'elles étaient pour moi les plus représentatives des bâtiments que j'avais faits. Donc, j'ai donné, je ne sais pas, peut-être 30 maquettes, alors qu'on a peut-être fait, je ne sais pas, on a peut-être fait plusieurs milliers, quoi. Et après, c'est pareil pour les dessins. J'ai dessine dans la rue ou devant la personne. C'est pour ça que tous mes dessins, ce sont des carnets. Parce que quand vous avez un carnet, il est rigide, il est de petite taille, vous pouvez l'avoir sous le bras, dans la poche et autres. Vous pouvez dessiner dans le train et autres. Et donc, c'est de montrer à la personne qui va faire des vrais dessins informatiques ou un ouvrier qui va vraiment construire, c'est de lui montrer ce qui est le produit premier de votre idée. C'est de dire, je te montre, d'ailleurs je dessine mal, ou j'ai mal dessiné, ou j'ai dessiné quelque chose que je ne sais pas construire, dis-moi comment tu ferais, ou comment tu aurais pu faire tout, et je redessine à ce moment-là avec lui un dessin complémentaire qui intègre ce qu'il m'a dit. Pour la maquette, c'est pareil, je lui montre la maquette, il se voit comme ça, on fait à ce moment-là un prototype à l'échelle 1 ou à une échelle réduite, et c'est peut-être lui qui le fait. Et à ce moment-là, comme il fait le prototype et que le prototype est plus explicite que la maquette, il prend le pas sur la maquette. Il rentre dans le jeu. C'est comme au théâtre. Je peux dire à quelqu'un qu'est-ce qu'il doit jouer comme rôle, mais en fin de compte, celui qui va jouer le rôle, c'est l'acteur. Donc, il va, à un moment donné, dépasser l'indication que je lui ai donnée. Il va donc sublimer mon idée. Et donc là, pour la construction, c'est pareil. Et pour quelqu'un qui rentre dans le métier, c'est de tout de suite l'associer au plus haut. Et non pas de lui dire, tu vas commencer comme ci. Alors, du coup, pour moi, la maquette est une maquette d'étude et non pas une maquette de représentation. Et elle est une maquette qui, d'ailleurs, peut ne pas vraiment représenter, on va dire, concrètement la chose. La maquette n'est pas la représentation de la réalité. La maquette, elle peut être faite avec du papier aluminium, alors que c'est une charpente en bois, par exemple. Pas obligatoirement, comme un compagnon du Tour de France qui ferait à l'échelle réduite un assemblage d'une charpente. Pas du tout. Alors ça, c'est comme ça. Donc, je pense que les artistes travaillent comme ça. Les sculpteurs, des fois, travaillent comme ça. Ils travaillent en terre, ou ils travaillent avec des morceaux qu'ils assemblent. Et après, ils passent à l'échelle 1. Mais ils ne travaillent pas tout de suite à l'échelle 1. Alors, la sculpture, c'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose qu'on retire. On a quelqu'un qui fait son esquisse, mettons en terre cuite. On voit un rodin en terre cuite, ou en plâtre, ou un Giacometti. Il le fait avec de la matière, il l'assemble. Et puis après, un Giacometti va l'agrandir tel, et puis un rodin, il va faire l'inverse. D'un bloc de marbre, il va retirer. Donc, on peut être un sculpteur en retirant des choses d'une masse, ou un autre en ajoutant des choses. Donc, l'architecture est entre les deux.
Donc moi j'ai une dernière question. Ce qui est assez drôle, c'est que donc je ne t'ai jamais eu en tant que prof, et pour autant j'ai beaucoup appris de ce qu'a fait construire. Donc ça c'est assez beau, parce que du coup notre relation a transcendé les limites de l'école d'architecture, et de même le fait de se parler ou de se voir, puisque c'est la première fois que ça nous arrive. Et en fait, qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai appris une chose qui est assez fondamentale pour moi aujourd'hui. J'ai appris que faire de l'architecture, c'était faire lieu. Et que faire lieu, c'était un acte d'abord qui se passait dans la tête. D'abord, il fallait choisir quelque chose, un sujet, un endroit, voir et choisir. Et donc, en fait, avec la compréhension de ton travail, c'est la première fois que j'ai mis le doigt sur l'aspect politique de construire. En fait, en quoi est-ce que construire était un acte politique ? C'est quoi pour toi la dimension la plus politique de ton métier ?
Pour revenir à ce que tu viens de dire, tu vois bien que, au bout déjà d'une heure, tu comprends mieux, je te comprends mieux, tu vas pouvoir me tutoyer, tu vas même pouvoir avoir des références de choses que tu as trouvées toute seule. C'est-à-dire que quelquefois, une revue dans la rue, un acte de quelqu'un qui s'occupe d'un autre, d'un ouvrier qui construit quelque chose, tu vas être nourri par mimétisme. Voilà, et tu vas choisir dans la masse de choses qui t'entourent ce qui correspond à ta personnalité ou à ton éthique, on pourrait dire. Et donc, c'est ça qui est formidable, c'est que tu t'es autant auto-formé par le contact de gens de ton âge, par des gens plus vieux, par des actes que tu as vus au cinéma, vus dans un roman et tout. Donc, tu es nourri de tout ça. C'est pour ça que le défaut des enseignements professionnels, c'est de croire que seul ce qui est enseigné dans l'école dite professionnelle est conforme à la profession. Donc, on a la démonstration par la conversation qu'on vient d'avoir que l'école est indispensable plus pour rencontrer des gens de ton âge que l'école est indispensable peut-être pour rencontrer des gens plus vieux que tu ne rencontrerais pas malheureusement en dehors de l'école. Mais si on peut les rencontrer en dehors de l'école, on n'a pas besoin de l'école. On peut rencontrer des professionnels au café ou dans un couloir. Et donc, pour répondre à ta dernière question, qu'est-ce qu'il y a de plus politique ? Mais c'est ça. C'est-à-dire que la politique, c'est l'organisation sociale. C'est ça, la politique. La politique, c'est comment des hommes qui vivent, qui sont tous des individus, ils ne peuvent pas vivre seuls, il faut qu'ils s'organisent pour vivre ensemble. Et donc, pour s'organiser, pour vivre ensemble, eh bien, il y a des règles. Alors, soit c'est des règles brutales, voilà, tu fais telle connerie, on te tue, on t'enferme, on, je ne sais pas quoi, voilà, on te fait souffrir. Soit, en effet, tu inventes des règles qui permettent d'être comprises par tous, mais qui permettent de vivre ensemble, mais tu as le droit de les interpréter. Et tu fais société. Parce que vivre ensemble, c'est faire société. Faire société, c'est être politique. C'est ça, la politique. La politique, c'est être ensemble. Et c'est trouver un mode de liberté qui fait que chacun peut rester un et que chacun peut adhérer au groupe et se reconnaître dans le groupe. Alors, quel est le plus bel acte politique en architecture ? C'est le jour où tu feras quelque chose où tu réuniras le plus grand nombre de gens. Alors, on appelle ça maintenant des habitants. Moi, avant, je pensais que tout le monde était habitant. Alors, pour moi, tout le monde est habitant. Donc, ce terme-là ne devrait pas exister. On va réunir des politiques. Moi, je pense que tout le monde est politique. Alors, donc, on va dire, on ne va pas faire des étiquettes sur les politiques. Après, on a besoin de techniciens, on a besoin de spécialistes. Oui, enfin, tout le monde, en fin de compte, dans sa spécialité, n'est pas totalement performant. Il a quand même des grandes défaillances. Donc, ça serait de se réunir sur un sujet, l'acte le plus politique, et de permettre à des gens d'apporter ce qu'il sait, d'entendre ce que sait l'autre, et de faire un projet qui peut-être serait la réunion spécifique au projet, et non pas une méthode applicable à tous. Tiens, pour ce projet, pour cet hôpital, pour cette EHPAD, pour ce trottoir, pour éventuellement cet espace public et tout, ce qui a permis de se réunir, là, c'est peut-être la vision d'un habitant, d'un enfant, parce que les enfants n'ont plus la parole, d'un vieillard, on les met dans les EHPAD, peut-être que même sur une chaise roulante, ils pensent encore. Et donc, c'est ça l'acte politique, c'est faire de l'architecture un acte de réunion politique. Et donc, c'est faire de la politique. Hein. Donc, moi, je ne fais que de la politique. Hein. C'est ça qui m'intéresse, c'est de vivre avec les autres. Voilà.
Très bien. Eh bien, super. Merci, merci beaucoup, Patrick, d'avoir accepté cette conversation.
Tu es libre de l'interpréter. Car comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as bien fait des choses en ayant vu ce que je faisais. Donc, tu peux écrire quelque chose en ayant entendu ce que je disais. Et ce qui compte, c'est que ce soit compris. Donc, merci de l'interpréter.
Voilà. Merci pour cette confiance, en tout cas. Et puis, bah, bonne fin de journée. Au revoir.
Oui, toi aussi. Allez, salut.
Et voilà, c'était Patrick Bouchain. Je suis Chérine Gasnier, la créatrice de ce podcast. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker, le partager, le commenter, vous abonner sur les plateformes d'écoute. J'espère vous retrouver très vite pour un prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous.